Vous écoutez Aime l'été.
Deuxième moitié d'heure à Aime l'été. On est avec Claudine Desrochers qui passe l'heure avec nous. Alors, on va continuer à lui parler. Bien sûr, on a Nathalie Barrette aussi en studio. Alors, on va parler avec notre autre invité, Maxime Drolet-Gauthier, qui va nous parler d'immobilier. En fait, là, on l'a reçu, je pense, il y a peut-être deux semaines. Là. Bonjour, Maxime.
Bonjour, ça va bien?
Mais très bien. Alors oui, on vous a reçu en tant qu'athlète. Finalement, vous êtes, on rappelle, vous êtes membre de l'équipe nationale de rugby en fauteuil roulant. Enfin, bref, vous êtes. On a parlé de tout votre parcours, votre histoire. Là. Bien sûr, vous avez eu un accident de voiture qui vous a laissé tétraplégique, mais à travers ça, vous avez toute une belle histoire. Ça a été évidemment difficile, on sait, au début, mais après ça, vous êtes rebâti dans les sports. Mais là, aujourd'hui, vous nous parlez d'immobilier et de maisons adaptées, finalement, parce que ça a été, là, c'est vraiment votre spécialité.
Oui, bien, dans le fond, ça, pour faire une histoire courte, j'ai un accident de voiture, ça, en 2013, comme j'ai dit, là, deux semaines. Et dans le fond, c'est durant ma réadaptation, je trouvais qu'on était super bien encadré au centre de réadaptation où moi j'étais dans le temps. Mais je trouvais que par rapport au retour à domicile, donc tu sais, une fois que ben, tu es en fauteuil roulant, évidemment, il y a certaines facettes des fois du domicile qui doivent être modifiées. Puis à travers ça, tu sais, je trouvais que les ergothérapeutes t'accompagnaient pas vraiment. Donc de trouver un logement vraiment accessible, de savoir un peu comment ça fonctionne avec les subventions, selon ta situation, aussi de comprendre un peu selon les différents assureurs, ce à quoi tu as le droit, toutes les procédures, les démarches. C'est quand même complexe mon expérience personnelle. Puis aussi, justement, quand j'ai commencé à jouer au rugby par la suite, mais j'ai commencé à côtoyer beaucoup de monde en fauteuil roulant. Puis c'est quelque chose qui revenait souvent, qu'il n'y a pas beaucoup de services au Québec ou d'accompagnement pour tout ce qui touche à l'immobilier accessible. Fait que j'avais commencé justement à refaire mes démarches, dans le fond. J'étais revenu, dans le fond, vers l'équipe d'égothérapeutes du centre de réadaptation, l'IHGLM à Montréal. C'est comme proposer, comme poser des questions à savoir pourquoi ce genre de service n'était pas offert. Puis s'il y avait une manière qu'on pourrait travailler ensemble pour développer ce service-là. Fait que ça a commencé comme ça avec le centre de réadaptation sur l'IRGLM à Montréal. Puis par la suite, bien, j'ai commencé ça, à développer une plateforme web, puis aussi à réaliser qu'il y avait de la demande à l'extérieur. Fait que c'est de structurer un peu ça pour pouvoir prendre en charge peu importe une personne qui a un handicap au Québec qui veut, par exemple, trouver un domicile ou vendre son domicile, adapter son domicile, de pouvoir l'accompagner à travers ça. Fait que c'est pour ça que j'ai développé mon entreprise, puis c'est ça qu'on fait là.
Alors donc, est-ce que ça se trouve facilement des maisons, des logements adaptés? Est-ce que, par exemple, j'ai lu aussi que souvent, on personnalise également, quand on adapte une maison, ça dépend toujours de notre handicap, bien sûr. Alors c'est là que ça peut aussi faire la différence. Là. C'est pas nécessairement une maison, va pas être accessible pour tout le monde, dépendamment du handicap.
Non, mais premièrement, tu sais, il faut comprendre que, tu sais, au Québec, des logements, des habitats qui sont considérés comme accessibles, c'est environ 15 %. Quand on dit accessible, c'est souvent quelqu'un en fauteuil roulant. Fait que déjà, en partant, il y a beaucoup moins d'offres. Puis aussi, tu sais, je veux dire, avec la crise du logement, puis aussi, si on va dans le côté locatif, là, et, tu sais, la plupart des gens en situation d'handicap, ils ont un revenu qui est inférieur à la moyenne des gens qui n'ont pas d'handicap. Fait que concernant justement la crise de logement, le fait qu'il y a juste 15 % de ces logements-là qui sont accessibles, puis le fait justement que comme la plupart des gens en situation de handicap ils ont moins de revenus, ça fait que c'est vraiment difficile pour eux en ce moment d'en trouver un. Ça, c'est la première chose. La deuxième aussi, c'est que la plupart des propriétaires de tours à logement sont pas obligés d'accepter une adaptation à leur logement. Souvent, qu'est-ce qui fait en sorte, c'est que ces gens-là, ils pensent que d'adapter, par exemple, leur logement, ça va faire en sorte que par la suite, si ce locataire-là, il s'en va, mais ça va être difficile de ne pas le louer. Fait que c'est une autre chose aussi qui est à prendre en considération, qui en sorte que c'est plus difficile de trouver un logement pour quelqu'un qui a un handicap. Et sinon, il faut vraiment considérer toujours la situation de la personne. Donc souvent, il y a trois cas qu'on connaisse. Le premier, c'est quelqu'un qui a un accident de la route, ça qui est avec la SAC. Quelqu'un qui a un accident au travail, c'est la CCLT. Puis il y a toute la catégorie qui est haute, qu'on dit, que des handicaps de naissance, par exemple, ou des enfants lourdement handicapés, c'est le programme PAD. Fait que c'est à prendre en considération parce que c'est le côté financier si on peut avoir des subventions pour pouvoir faire les adaptations de notre domicile. Puis dépendamment de cette subvention qu'on peut obtenir, mais ça va faire une différence sur c'est quoi les adaptations, c'est quoi les qu'est-ce qui va s'offrir à nous en termes de si on va louer, si on va acheter,
c'est ça.
Les adaptations. Fait que c'est vraiment les accompagner à travers tout ça.
Oui, on a ici Claudine Desrochers avec nous en studio. Elle a une question pour vous.
Bonjour à toi. C'est super intéressant. Bonjour. J'ai une question pour toi. Quand tu parles de logement, là, les propriétaires ont peur que par la suite, ils ne soient pas capables de relouer. Si on parle d'un logement là, qui est sur un niveau, c'est quoi les adaptations? Ouais. C'est-tu la largeur des portes, surtout au niveau de la cuisine entre l'îlot, le comptoir, pour que le fauteuil roulant puisse circuler? C'est-tu plus ça?
Ça peut être des comptoirs plus bas aussi. Hein?
Je te dirais, c'est sûr, ça dépend toujours de la personne, de l'handicap, les limitations, etc. Mais en général, en recherche de logement, pour tout ce qui est immeuble à logement, il y a trois choses que je regarde principalement. La première, c'est comment tu accèdes au bâtiment. Fait que, est-ce qu'il y a une entrée principale? Est-ce qu'il y a une dénivelée pour se rendre à... Est-ce qu'il y a des marches? Est-ce que tu peux avoir un accès via le garage? Est-ce qu'il y a un garage intérieur? Parce que c'est très important pour quelqu'un qui a un handicap, s'il y a une voiture, si ton seul stationnement, c'est dans les rues de Montréal, mais s'il y a une tempête de neige, ça, c'est des choses à prendre en considération. Fait que comment tu accèdes à ton bâtiment? La deuxième chose, c'est souvent les trois pièces principales. Donc, la cuisine, la salle de bain, puis la chambre à coucher principale. Il faut toujours qu'on ait un rayon de 59 pouces de rotation par rapport à tout ce qui est entre les murs, les électroménagers, les comptoirs, etc. Fait que c'est la deuxième chose qu'on regarde tout le temps. La troisième chose, ça a l'air banal, mais c'est ce qu'on a de l'espace sur lequel travailler. Parce que plus qu'on a de l'espace, plus c'est facile par la suite, exemple, avec les gros thérapeutes, de faire les recommandations, d'être créatif pour trouver des alternatives pour la personne. Puis après ça, mais c'est toujours justement est-ce qu'il est assuré, cette personne-là? C'est quoi les subventions derrière? Y a-t-il un budget? C'est à partir de là qu'on peut justement analyser le tout.
Parce que ça peut coûter plus de 50 000 $ facilement, hein, faire des adaptations à une maison. Ça, faut
ben, juste pour vous dire, dernièrement, on a eu un client dans le sud-ouest de Montréal. Puis c'était une adaptation pour son enfant qui était lourdement handicapé. Puis ça a coûté. Ben, les soumissions qu'on a reçues, c'était au-dessus de 400 000 $.
Oh mon Dieu!
Okay. Ça prenait plusieurs choses. C'est sûr que je dirais en général, c'est en bas de 100 000. Mais tu sais, ça peut arriver que ça peut être vraiment ça, là. Vraiment, vraiment cher comme ça.
Et puis, pour avoir les subventions, là, est-ce que c'est compliqué? Puis là, ça prend quasiment un doctorat pour se comprendre dans les dans les demandes puis les papiers à remplir, etc.? Ou...
Bien, je te dis, ça prend pas un doctorat, mais ça prend vraiment un suivi accru. Parce que, premièrement, souvent, les assureurs, ils vont pas courir après toi, premièrement. Il y a beaucoup, beaucoup de démarches à faire derrière, que ce soit avec la SAC, la SSC ou le PAD. C'est juste que c'est important que tu sois bien informé. Puis justement, c'est la chose qu'on rencontre souvent, surtout des personnes qui viennent d'avoir un accident comme moi j'ai eu il y a 11 ans. Puis quand tu es dans ton premier projet d'adaptation de domicile, de tout comprendre comment ça fonctionne, les procédures, comment faire les vérifications auprès de la municipalité, si les adaptations vont être. On va pouvoir les faire sur la propriété, exemple, qu'on voit.
Ah, c'est vrai, ça prend des permis et tout. Mais qui peut les aider? Y en a-t-il un organisme qui peut les aider, justement?
Ben toi, tu fais ça, Maxime.
C'est le travail de Maxime.
Ça.
Et voilà.
C'est un peu ça, nous, qu'on fait.
Donc, tu fais les rénovations plus ça?
Dans le fond, nous, ce qu'on fait, c'est que peu importe la demande du client. Si, exemple, c'est pour la démarche de domicile, ben, si on regarde son profil, donc SAC, SSC ou autre, fait qu'on va faire la démarche, justement, auprès des municipalités pour voir... d'obtenir les permis en fonction de ce qu'on a besoin de faire sur la propriété. Justement, la paperasse autour des subventions soit complétée. Fait qu'on accompagne un client pour faire adéquatement remplir ces formulaires-là. On communique dans certains cas avec les agents en charge du dossier, donc SAC, PAD, CSSC. Fait qu'on va négocier avec eux dans le cas où que les devis qui sont envoyés, qui sont recommandés par l'ergothérapeute, ne sont pas nécessairement logiques par rapport aux besoins du client, parce que ça arrive souvent, parce que c'est toujours le moins cher possible. Fait que des fois, c'est pas une meilleure recommandation. Plus, s'il y a un élévateur qui fait partie du projet, ben, c'est nous qui va contacter les Savaria, les Atlas, toutes les compagnies, puis on fait les démarches auprès de ces entreprises-là aussi. Puis, je te dirais, pour les projets d'adaptation de domicile, c'est vraiment ça. On va regarder les soumissions, on va aller chercher les entrepreneurs, on va regarder les soumissions qu'on reçoit avec... le client, on essaie de l'éclairer sur de faire le meilleur choix possible. Par la suite, on s'assure que durant les travaux, que l'entrepreneur suit les normes d'accessibilité, évidemment par rapport toujours aux adaptations, plus précisément pour s'assurer que ça va être correct pour la personne par la suite. Puis ensuite de ça, une fois que les travaux sont terminés, ben on va confirmer. Puis voilà, je dirais pour les adaptations de domicile, ça ressemble à ça. Puis pour l'achat ou vente, ben, c'est vraiment, on a une petite équipe aussi de courtier immobilier. Dans le fond, qui est habitué à ce genre de clientèle-là, donc ils savent quoi regarder. C'est souvent, évidemment, des condos ou des pleins-pieds qu'on va faire parce que ça minimise les coûts d'adaptation. Puis c'est souvent les assureurs vont se rediriger vers ces propriétés-là. Ouais. Donc, il y a aussi le service de courtage immobilier. Puis sinon, on a une plateforme web qu'on est en train de développer, un genre de pentrice du proprio, mais seulement avec des propriétés qui ont un minimum d'accessibilité. Ah. Fait que développer une plateforme, fait que quelqu'un qui soit qui cherche un logement ou une propriété, mais sur cette plateforme-là, il va tout savoir qu'est-ce qui est disponible dans le temps réel.
Mais Maxime, wow. C'est énorme là, tout ce que tu dis, et puis c'est vraiment des démarches incroyables. Mais en fait, les gouvernements, je veux dire, au niveau de l'accessibilité universelle, il n'y a pas des normes là, maintenant de construction pour permettre déjà de construire avec l'accessibilité universelle. Ça peut déjà quand même faire le travail en bonne partie. Est-ce qu'on est obligé? Est-ce qu'on ne pourrait pas, par exemple, petit détail, avoir des interrupteurs tous placés un peu plus bas? Qu'est-ce que ça change quand on a qu'on soit en fauteuil roulant ou enfin qu'on soit en fait qu'on n'ait pas de handicap, que les interrupteurs soient plus bas? Tu sais, ça pourrait rendre service en même temps à tout le monde. Tu sais, c'est toutes sortes de choses qu'on peut penser en amont. Et est-ce que tu dirais qu'il y a une évolution de ce côté-là?
Bien sûr qu'au Québec, on est quand même en retard par rapport à nos voisins aux États-Unis, où que déjà en termes de quand il y a des constructions nouvelles, il y a plus de réglementation par rapport à l'accessibilité. Nous ici, c'est sûr que depuis, je pense que 2019, plus dans le tour à logement qui dépasse, je m'en rappelle plus, je pense que c'est 10 logements, ils sont obligés de le rendre accessible, dans le fond, à la propriété, dans le fond, qu'il rentre d'accès ou un ascenseur, etc. Mais il n'y a pas beaucoup de projets. Il n'y a aucune obligation, dans le fond, par rapport à tout ce que, comme tu disais tantôt, avec les interrupteurs, les largeurs de porte qui sont accessibles, c'est 34 pouces et plus, par exemple. Il n'y a rien qui force les constructeurs à suivre ça.
Les entrepreneurs, exact, oui.
Ouais, mais il y a des entrepreneurs de plus en plus que, mettons, ils vont faire certains, mettons, un pourcentage des, je sais pas, exemple, ils veulent construire un 25 logements. Mais exemple, tout ça au premier étage, ils vont les rendre accessibles pour, mettons, aller rechercher une clientèle, justement, de façon plus réduite. Mais je te dirais qu'il n'y a pas d'obligation encore. Il y a des choses qui s'améliorent, je trouve, mais on est quand même loin. Fait que c'est un peu aussi ça que l'entreprise veut faire, on veut concentrer un peu les gouvernements, puis qu'il y a un peu de changement. Parce que l'ergonomie, c'est pas juste pour quelqu'un en fauteuil roulant.
Non, ça touche tout le monde, c'est ça. J'allais te parler de ça. C'est que
la population vieillissante,
exact,
aussi.
Pour les personnes âgées. Les gens âgés recherchent maintenant beaucoup de plein-pied, des maisons plein-pied, justement à cause du fait qu'ils vieillissent puis que c'est plus difficile, évidemment, les escaliers et tout. Mais c'est ça. C'est que ça peut servir à tout le monde. Alors, c'est vraiment une expertise à développer.
Oui.
Exactement. Mais tu sais, je vois quand même depuis que je me penche sur ce projet-là, ça fait environ 3-4 ans, qu'il y a vraiment une évolution, ça s'améliore. Tu sais, aussi, je participe à des décrets, justement, d'urbanisme par rapport à l'accessibilité universelle. Je trouve qu'il y a quand même une amélioration, surtout dans le désir, au moins, de changement.
Ouais.
Mais ça reste qu'il y a quand même beaucoup de choses à faire. Là.
Alors, tu desserres plusieurs territoires, là, et puis tu as aussi tout ton côté, là, tu as construit toi-même un chalet. Tu es en train de construire, je pense, ton chalet adapté aussi, alors évidemment.
Ouais. Parce que dans le domaine des chalets locatifs, on pense à tout ce qui est Airbnb et tout ça, il n'y en a pas beaucoup qui sont adaptés. Alors, toi, c'est ce que tu as créé avec tes chalets. La compagnie s'appelle comment, donc? Chalet pour tous?
Chalet pour tous, oui.
OK. Donc...
En 2020, en fait, ça a commencé. Mais je dirais que même encore de ce côté-là, il y a quand même une évolution parce que quand que j'ai fait mon chalet en 2020, le premier, si je ne me trompe pas, il y avait les chalets U qui dans le Laurentide, les chalets universels qu'il y avait. Puis il y en avait, je pense, deux autres au lac Saint-Jean, puis c'était tout. Mais depuis 2020, ça fait qu'en 4 ans... Il y a vraiment une augmentation qu'il y a eu, puis j'en ai vu quand même plusieurs. Tu peux aller voir sur le site qui roule. Là,
c'est un site qui. Oui, parce que vous êtes recommandé par qui roule, justement.
Non, exactement. Il y en a de plus en plus, en tout cas. Des chalets qui ont au moins. Tu peux accéder à la propriété. Ça ne veut pas dire que tous les étages sont accessibles, mais au moins, je trouve qu'il y a quand même il y a une augmentation de l'offre là, de ce côté-là aussi.
C'est ça, parce que bon, ton chalet, c'est le seul et unique chalet perché en montagne adapté aux personnes à mobilité réduite quand même au Québec, c'est ça. Bon, écoute, en tout cas, c'est vraiment un beau projet. Et puis, j'imagine que tu as quand même une clientèle qui a de grands besoins. Alors, c'est vraiment d'autant plus important ce que tu fais pour tes clients. Alors, écoute, merci, Maxime, d'être venu nous en parler.
Oui, puis merci. Merci pour ce que tu fais aussi pour aider les gens à se sentir mieux, plus confortables, puis à se trouver un endroit où ils peuvent être heureux avec leur handicap. Là, c'est vraiment fantastique ce que tu offres comme service.
Oui, on essaie de toujours améliorer le service, c'est ça, puis en espérant qu'on peut faire une certaine différence dans le futur. Là.
C'est sûr que t'en fais une.
Je pense que les besoins avec la population qui vieillit, les besoins vont être grandissants, assurément. Bon, ben merci.
Bravo, Maxime.
De beaux projets encore pour toi à venir.
Un gros merci.
Merci.
Au revoir.